sur France Inter, on va déguster.
Figurez-vous que je reviens de Corse où je fus invité par Slow Food.
On y revient, Slow Food évidemment, dont vous êtes la vice-présidente internationale, Alice Waters, et que nous connaissons bien, mouvement créé par Carlo Petrini en réaction au fast-food, blablabla, etc. Premier festival en Corse.
Absolument, mon cher, et de ce retour, je peux vous l'affirmer, la Corse roupille.
Ouh là là, il va se faire
attention, 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 j'ai bien dit la Corse et pas les Corses. Vous me connaissez, François Régis, loin de moi les poncifs éculés. Et puis, j'ai pas trop envie de me prendre un coup de fusil.
Ah bon, voilà un poncif. Oui.
Donc, ce qui roupille en Corse, c'est les Corses. Non, 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 pas les Corses, les Corses. En un seul mot, la surface, le sol. Des centaines de milliers d'hectares dormant sous le vert édredon du maquis. Le maquis couette, quoi. La Corse, historiquement grenier à blé de la Méditerranée, devint hystériquement, en quelques décennies, le bronze cul de l'Europe. Comment se fait-ce? C'est Guy Maestracci, émérite vigneron, et son fils Pierre-François, brasseur de la bière locale Ribella, à Patrimoine, qui m'ont donné quelques éléments de réponse. Ils m'ont raconté comment, là aussi, comme dans bien d'autres territoires, la valeur des terres a changé de camp. Jadis, au temps de l'emprise agricole, on donnait en héritage aux fils aînés les terres de l'intérieur, celles qui avaient de la valeur. Elles avaient de la valeur car elles nourrissaient le territoire et ses habitants. Et on laissait aux filles les terres dérisoires, le littoral, le sable stérile, moustiques et malaria, tout ça. Et c'est là que ça se corse. Tout changea. Il devint plus facile et moins cher de faire venir le blé du continent que de le produire sur place. Et en même temps, le tourisme apparut. Les mouches ont changé d'âne, comme on dit chez moi, et les héritages de destinataires. Aux aînés, les zones constructibles au bord de la mer, devenues tellement lucratives, et aux filles, les terrasses agricoles abandonnées, couvertes de chênes verts, de cochons sauvages, le maquis. Guy Maestracci, dans sa grande sagesse, a baptisé cette Corse-là, celle de l'intérieur, que seuls les chasseurs et quelques bergers opiniâtres occupent encore. Il l'appelle la belle au bois dormant. Il dit qu'elle n'attend que le baiser de son prince pour reprendre vie. Et je le soupçonne de penser que le profil du prince en question, c'est celui de Pierre-François, son fils. Mais pas que lui, bien sûr. Ce sont tous ces jeunes gens, pleins d'énergie, qui arrivent ou reviennent du continent avec une idée en tête, habiter et faire vivre ce territoire. Mais quel pourrait être le baiser du réveil? Comment, sans se ruiner ou se tuer à la tâche, réouvrir ces paysages en sommeil? C'est Alain Canet, chantre de l'agroforesterie, qui, au cours d'une belle balade, nous mit sur la voie. Il nous raconta comment, grâce aux animaux élevés en agroforesterie, cochons, brebis, chèvres, volailles, on pourra reconquérir ces terres et les rendre à nouveau cultivables. François Mullet, pionnier du maraîchage en sol vivant, nous fit rêver en imaginant les vignes et le houblon redevenus lianes, grimper aux arbres. Pendant quelques instants, nous avons vu la Corse ouvrir les yeux et nous sourire. Qu'est-ce qu'elle est belle au réveil, l'île de beauté. Vivement les baisers de tous ces princes charmants.
Bravo, bravo, bravo Arnaud Daguin. Et bonjour à la famille Maestracci à Patrimoine. Ils sont vignerons, brasseurs, restaurateurs, engagés dans l'agriculture et l'alimentation vivante.
Moi, j'aurais bien vu une petite Ribella, non? De Patrimoine.
On a le droit de trahir un secret, Elvira?
Ouais.
On l'a fait plusieurs fois ensemble cette
année.